De haut en bas, par H.A. d'Orliac. C'est une retraite paisible dans un quartier qui ne l'est pas, et le voisinage du Sacré-Cœur suffit à peine à rassurer les vieilles dames, dont le dernier perchoir est si près du Perroquet et du Moulin Rouge. On y est bien, sous l'égide des saints martyrs et de la Sainte Providence. Derrière une lourde porte, presque conventuelle, il y a un joli jardin, plein de chants d'oiseaux, une chapelle, murmurante de cantiques, des religieuses qui circulent à pas feutrés, des pensionnaires âgés, et c'est une oasis de silence, de recueillement, de sérénité, au milieu de la grande fournaise d'agitation, de bruit, de dissipation, dont les vagues brûlantes expirent sur le seuil. On y potine bien un peu, sans cela on ne serait plus femme, et M. l'aumônier a beau tonner, il ne peut empêcher que l'on cause. Mademoiselle Sidonie n'avait pas à se reprocher le plus petit bavardage intempestif. Elle ne parlait jamais de personne, pour l'excellente raison que personne ne l'intéressait qu'elle-même, et uniquement préoccupée de sa tranquillité, de son bien-être, de sa santé, de ses menus plaisirs, elle n'avait pas trop de séjourner pour y suffire. Soins de toilette, régime, hygiène, voilà pour le corps. Lecture, conférences, concerts, théâtre, voilà pour l'esprit. Que vouliez-vous qu'il reste pour le cœur? Un mari, des enfants, une famille, en aurait-elle eu la place? Dans son existence méthodique et bien ordonnée, il n'y avait pas le plus petit casier vide. Et c'était bien juste s'il a trouvé le temps des exercices religieux, auxquels, scrupuleusement, mais sans enthousiasme, elle réservait leur juste part. Exact aux offices, observant jeûne et abstinence, ne négligeant pas sa prière, très consciencieusement, elle cherchait ce qu'elle pouvait bien dire à son confesseur, et quand il lui recommandait la divine charité, elle écoutait sans comprendre, puisque jamais elle ne refusait une aumône et ne faisait aucun tort à son prochain. Seulement, elle l'ignorait. Elle n'avait plus que des cousins lointains, ne comptant pas beaucoup plus pour elle qu'elle ne comptait elle-même pour eux. Des amis? Non. Des relations laissées comme un excédent de bagages inutiles à la porte du wagon qui devait la conduire au port. Des souvenirs? Pas davantage. La passion des animaux lui manquait également. Ni chien, ni chat, ni perroquet, ni serin n'avaient encombré sa vie, et elle ne songeait même pas à émietter son pain aux chanteurs ailés des vieux arbres mélancoliques. Alors, rien? Si. Tout le monde n'a-t-il pas sa marotte? Mais celle de Mademoiselle Sidonie, à la disposition de tous, sans aucune réserve ni barrière, n'était pas bien encombrante. Elle n'avait qu'à ouvrir sa fenêtre sur l'immensité du ciel dans les nuits étoilées et à parcourir du regard son domaine. Mademoiselle Sidonie était férue d'astronomie. La sphère céleste lui était familière et elle vivait dans l'intimité des étoiles, comètes, nébuleuses, planètes grandes et petites, suivant ardemment les travaux scientifiques de l'observatoire, achetant les ouvrages de vulgarisation, invitée parfois à Juvisy. Et la décoration de Madame Flammarion avait été un des beaux jours de sa vie. Mais Uranie, n'ayant pas beaucoup de fervente autour d'elle, nul ne venait se mettre entière entre elle et la muse, dont la statue tournait sa cheminée et qui seule faisait battre son cœur froid. C'était la nuit de Noël. Les étoiles brillent au ciel, mais les yeux n'y cherchent guère que cette étoile bénie, guide des bergers et des mages et des hommes de bonne volonté. Mademoiselle Sidonie voudrait bien pouvoir s'orienter sur elle. Entraînée par une voisine aventureuse, elles ont été entendre la messe de minuit à la basilique. Séparées par le flot des fidèles, elles se sont cherchées vainement à la sortie et Mademoiselle Sidonie a manqué le dernier métro qui devait la déposer à sa porte. Dans le jour, ce n'aurait pas été une affaire. Mais redescendre toute seule, à travers les rues désertes ou bruyantes, où flambaient les restaurants de nuit débordant de ripailles ou de roues pavinées. Pour éviter ce contact répugnant, elle se jette à droite, à gauche et finit par se perdre complètement, tout en ayant la sensation de n'être pas bien loin du port. Si quelqu'un pouvait la remettre dans la bonne direction. Mais elle ne rencontrait plus personne, et aurait donné beaucoup pour entrevoir la silhouette d'un gardien de la paix. Celle qu'elle apercevait, affalée sur un banc, n'avait rien de bien rassurant, mais c'était une forme féminine, et dans sa détresse, la vieille brebis égarée se serait même adressée au loup dévorant. La rue des Martyrs, par là, c'est pas bien loin. La voix était jeune, bien qu'éraillée, et une quinte secoua de frêles épaules sous le châle usé. « Merci, » dit Mademoiselle Sidonie, en cherchant quelque chose dans son petit sac. mais elle avait donné toute sa monnaie à la quête et n'avait plus que des billets. « Pas la peine, allez !» dit la voix gouailleuse. Elle fit quelques pas hésitants. Des flocons voltigeaient dans l'air, et la toux, derrière elle, lui déchirait la poitrine. Elle revint vers le banc, l'autre se méprit sur son geste. « Je vais vous conduire !» dit-elle en se levant péniblement. « Vous allez prendre du mal par ce froid. »« C'est fait. Vous devriez rentrer chez vous. » « J'ai pas de chez moi. Vos parents ?»« J'ai pas de parents. Ou plutôt ma mère m'a jeté dehors. Je l'avais pas voulu du reste. Si elle vous voyait dans cet état, bon, elle a répondu « qu'elle crève !» Et je crève. » Mademoiselle Sidonie est bouleversée. Elle qui contemple sans vertige des milliers de constellations, elle sent la tête et le cœur lui tourner devant cette lamentable épave, fleur de ruisseau, mais pour laquelle tout de même Jésus est né, a vécu, est mort. Dans cette nuit de liesse pieuse ou de folles orgies, il y a donc de misérables créatures qui n'ont même pas un gîte, une étable, et qui peuvent mourir seules, sans secours, sur un banc. Elle, qui ne s'est jamais intéressée à personne, se sent remuée jusqu'aux entrailles par cette poignante détresse. « Il ne faut pas rester dehors, » dit-elle avec autorité. « Si j'avais un chez moi, elle serait capable de l'y ramener. Mais elle ne peut songer à l'introduire dans la pieuse maison. Il y a bien des hôtels dans le voisinage. Bien sûr, mais faut du pognon. » La vieille demoiselle n'est pas familière avec la langue berthe, mais elle devine bien que ça signifie de l'argent, et dit « je paierai ». La malheureuse n'en peut croire ses oreilles, et sa protectrice elle-même a-t-elle bien conscience de ses actes? Une grande vague de pitié l'a soulevée hors d'elle-même, balayant réserve, scrupule, esprit timoré, correction bourgeoise. Comme Jésus entraînait ses disciples sur les routes de Galilée, il entraîne à cette heure ces deux êtres dans les rues de Montmartre, à la recherche d'un gîte qui consente à s'entr'ouvrir. C'est l'hôpital qu'il lui faudrait, bougonne la patronne. Je l'y conduirai demain, déclare Mademoiselle Sidonie en payant d'avance. Et elle l'a fait, comme elle l'a dit, et pendant toute une semaine, elle y a été tous les jours, sans souci de l'attente à la porte, au milieu d'un public spécial, des propos grossiers, des termes crus, et de tout ce que recouvre le manteau d'un saint roi. Elle porte des violettes, des oranges, un sourire, à cette agonie qui, sans elle, eût été désespérée, farouche, et qui s'illumine d'un rayon divin. Pour cet inconnu de la veille, ramassé dans la fange, et dont elle ne sait que l'horrible misère, Uranie est abandonnée, et Mademoiselle Sidonie n'a plus un regard pour les étoiles. Elle a des larmes plein les yeux, le jour où elle trouve le lit vide, et apprend que le numéro 15 est morte la nuit. En cette date de la nativité, qui a porté au dur monde païen la loi d'amour, Mademoiselle Sidonie a découvert qu'elle avait un cœur.